Bonjour à tous. En parcourant l'actualité, on arrive facilement à la conclusion que notre monde pourrait aller beaucoup mieux. Le monde se porterait mieux s'il n'y avait pas cette affaire Maëlys, s'il n'y avait pas la crise des migrants, ou encore s'il n'y avait pas cet exode des Rohingyas. La triste réalité, c'est que notre monde va mal à cause de la souffrance, à cause de l'injustice. Et ce constat peut nous amener à de profondes réflexions. Mais que faire? Comment réagir quand l'innocent souffre, tandis que les méchants demeurent si souvent impunis? Pourquoi la famille de Maëlys est-elle affligée alors que le coupable n'est toujours pas condamné? En allant plus loin, on peut naturellement se demander où est Dieu et que fait-il dans tout ça? Tout le monde se pose ces questions légitimes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on le retrouve même dans la Bible. Car le Dieu de la Bible a des réponses à nous apporter. C'est ce que nous allons voir dans le texte de ce matin. Nous allons parler de l'injustice, de la violence qui règne au sein du peuple du royaume du Sud. En effet, le royaume d'Israël a connu un schisme, une division, sous le règne de Roboam, le fils de Salomon. Au nord, les 10 tribus se sont rassemblées pour former le royaume dit du nord, tandis qu'au sud, réunis autour de Jérusalem, on trouve 2 tribus, la tribu de Juda et de Benjamin. Et Juda est majoritaire dans le sud. Notre texte s'inscrit à la fin, au crépuscule de la période des rois. Ce crépuscule se caractérise par la fin de la dynastie davidique et par un déclin moral. Les 10 tribus ont déjà été déportées en Assyrie. Et au sud, les fils du roi Josias ne marchent pas dans les traces de leur père, pour lequel la Bible affirme pourtant « Aucun roi avant Josias ne revint comme lui à l'Éternel de tout son cœur, de tout son être et de toutes ses forces, en observant toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en est point paru d'autre de semblable. » De Rois 23-25. Le peuple est loin de Dieu. Le peuple est dans la violence, dans l'immoralité. Et face à ce déclin, Dieu va susciter des prophètes pour parler à son peuple, pour les ramener à lui. Par exemple, on a le prophète Jérémie qui a condamné le péché du peuple. Il a pleuré pour personnifier la tristesse que Dieu éprouvait dans le chapitre 9. Et ce matin, nous allons parler d'un contemporain de Jérémie. Il s'agit du prophète Habacuc. Le prophète Habacuc fait face à l'injustice. Il nous partage un dialogue profond qu'il a avec Dieu. Et ce dialogue commence avec un cri, le cri de la foi face à l'injustice. Habacuc s'écrie « Seigneur, pourquoi tu ne fais rien face à l'injustice ?» Si ce matin vous posez des questions similaires par rapport au Dieu de la Bible, sachez que la Bible propose des réponses à l'injustice. Et ce dialogue d'Habacuc en est une. Si vous êtes actuellement dans la spirale de l'injustice, alors je prie que le Dieu de la Bible se révèle à vous ce matin au travers de ce texte que nous allons lire. Sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans le premier chapitre d'Habacuc. Alors, Habacuc, c'est le 5e livre en partant de la fin de l'Ancien Testament, donc Malachie, Zacharie, Agée, Sophonie. Et en fait, ce dialogue est classé parmi les petits prophètes. Alors, il n'y a pas de, non pas qu'il y ait une hiérarchie parmi les petits prophètes, le terme « petit » renvoie juste au nombre de chapitres qu'il y a dans ce texte. Le livre, il est petit, on n'a que 3 chapitres. Habacuc chapitre 1, on va en lire les 4 premiers versets. Message dont le prophète Habacuc a eu la vision. « Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi ?» Tu n'écoutes pas. J'ai crié à toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. Aussi, la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'en rend des jugements corrompus. Ce livre d'Habacouc est un dialogue privé que le prophète a avec Dieu. Dialogue qu'il va ensuite consigner par écrit. Et ces écrits constituent l'oracle de Dieu, c'est-à-dire le message de Dieu pour son peuple sur des événements qui vont se produire. D'autres versions traduisent par oracle de l'Éternel. La situation en Juda est tragique. Les coupables ne sont pas condamnés. Les innocents souffrent. L'état moral du peuple afflige Habacouc. Et toute la société est concernée, du pouvoir royal au peuple. C'est Jérémie, le contemporain d'Habacouc, qui nous le montre au chapitre 22, où Dieu lui dit : Tu diras, écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, qui est assis sur le trône de David, toi, tes serviteurs et ton peuple qui entrez par ses portes. Ainsi parle l'Éternel, pratiquez le droit et la justice, délivrez des mains l'oppresseur, celui qui est exploité. Ne maltraitez pas les migrants, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez pas de sang innocent dans ce lieu. La situation est tragique. Et comme si ce n'était pas suffisant, cette situation s'éternise. Jusqu'à quand, Éternel ? S'écrie Habacouc. Combien de temps encore vais-je supporter cette violence, ces mensonges, ces meurtres ? Vous imaginez vivre dans une ville où tous les jours vous rencontrez des escrocs, connus de tous ? Vous imaginez côtoyer tous les jours des personnes violentes et qui ne sont pas condamnées ? Et en même temps fréquenter ces personnes-là qui subissent ces oppressions, qui subissent ces délits ? Vous êtes peut-être témoin dans votre travail, au sein de votre famille ou au sein de votre église d'une injustice, ou peut-être, pire encore, vous êtes du côté de cette injustice-là, vous êtes la victime. C'est vous qui subissez une injustice. Il y a quelque temps, en deux semaines, on m'a volé le poste radio de ma voiture et quelques jours plus tard, quelqu'un a défoncé mon rétroviseur latéral. Qu'ai-je fait pour mériter ça ? Que faire quand nous sommes victimes, quand nous subissons des injustices ? Dans ce texte, Habacouc crie à Dieu. Mais Dieu reste silencieux. Faites-vous face à un silence de la part de Dieu ? Ce silence de Dieu qui s'éternise amène Habacouc à poser de sérieuses questions. Regardez le verset 2. Habacouc crie à Dieu. Ce cri pourrait se traduire par « Où es-tu, Seigneur ? Que fais-tu ?» Ensuite, il rajoute « J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence. » Dieu est-il toujours bon vis-à-vis des innocents ? Habacouc interroge Dieu sur sa bonté. Observez le verset 3. « Pourquoi me fais-tu voir le mal ? Dieu est-il toujours aussi saint ?» Habacouc ne pêche pas dans sa démarche. Nous aussi, nous pouvons avoir des questions similaires face à la souffrance que nous subissons. Toutefois, comme dans ce texte, posons nos questions à Dieu. Nous ne nous les posons pas nous-mêmes. Nous n'en avons pas les réponses. Mais Dieu est celui qui sait tout. Il est omniscient, il est omnipotent et il n'a pas peur des questions difficiles. Mais alors, quel enseignement tirer de ce texte ? Quelle attitude adopter quand nous sommes submergés par les vagues de l'injustice ? Chère Église, la souffrance afflige, l'injustice attriste. Les fautifs sont certes impunis, mais souvenons-nous que Dieu est celui qui nous délivre de cette situation. Alors même que l'injustice nous accable, recherchons le Dieu qui nous sauve, qui nous délivre de l'injustice. Dans ce texte, en plaidant pour les opprimés, Habacouc les invite à rechercher en Dieu leur salut. Alors qu'on pourrait être tenté de croire qu'Habacouc doute de Dieu, c'est exactement le contraire qui se passe. Par son attitude, Habacouc proclame sa foi. « Seigneur, tu es mon seul secours. Mon Dieu, je n'ai aucune autre solution en dehors de toi. Tu es le Dieu qui juge avec justice. Seigneur, toi seul, oui, toi seul peux sauver ce peuple. » Face à la souffrance, la foi d'Habacouc se traduit par un appel désespéré au secours certain qu'il a en Dieu. Dans le fond, Habacuc ne désespère pas par rapport à la situation de son peuple. Au contraire, il continue à rechercher Dieu. Il insiste, il persévère, il crie à Dieu sans se relâcher. Jusqu'à quand, Éternel ? De même, Dieu nous invite à le rechercher, lui, dans les temps difficiles. Car c'est au travers de ces questions sérieuses, c'est par l'intermédiaire de ses soupirs, par sa persévérance, que Dieu va se révéler et affermir la foi d'Habacuc. En effet, les dialogues du chapitre 1 et 2 finissent par un chant de louange qu'on a au chapitre 3, qu'Habacuc va composer en l'honneur de l'Éternel. Habacuc 3, 13, « J'ai entendu et mes entrailles se sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chef des chantres. » Au sein même de cette spirale de l'injustice, Dieu s'est révélé et a affermi la foi d'Habacuc. Recherchons donc Dieu, car c'est lui qui nous délivre de l'injustice. De plus, chère Église, le silence de Dieu peut être un moyen que Dieu utilise pour nous faire grandir. En lisant ce texte, on peut facilement se projeter dans le personnage d'Habacuc. Mais je pense qu'il serait tout aussi juste de nous comparer au peuple. À la question « Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde ?», Gilbert Keith Chesterton, un philosophe catholique, a répondu dans une brève lettre. « Chers messieurs, ce qui ne va pas dans le monde, c'est moi. Chers messieurs, ce qui ne va pas dans le monde, c'est moi. » Chère Église, le péché concerne chacun de nous. Si bien que la souffrance dans le monde n'est qu'une juste représentation, une vue globale, massifiée du péché de chacune de nos vies. Oh, nous ne sommes peut-être pas violents dans nos actes, mais nous le sommes certainement par nos pensées, par nos paroles qui manquent de tact. J'ai partagé il y a quelques minutes que mon rétroviseur a été vandalisé il y a quelques temps. Ce matin-là, après ce constat, il y a eu de la tristesse, de l'incompréhension, et de suite après, de la colère. Je suis allé à la salle de sport, et en sortant de celle-ci sur le chemin du travail, je me suis remis à ruminer. Si seulement j'avais été là quand cette personne vandalisait mon rétro. Rancune, amertume. Dans le fond, j'avais envie de lui faire payer le tort qu'il m'avait fait. Alors que j'avais ces idées sombres, une pensée lumineuse m'a traversé l'esprit. Au fait, Rolly, tu prêches sur quoi déjà dans 2 semaines ? Tu prêches sur quoi déjà dans 2 semaines ? L'injustice que nous subissons ne nous conduit-elle pas à commettre d'autres injustices ? J'ai dû demander pardon à Dieu. J'ai prié que Dieu m'aide à vivre avec cette injustice tout en l'honorant, lui. Vivre avec cette injustice sans pécher contre Dieu. Et par la suite, ma vision de la situation a complètement changé. Tout allait beaucoup mieux et Dieu m'a fait la grâce de prier pour le salut de ce coupable. Oh, nous ne sommes probablement pas des meurtriers, mais il y a certainement des domaines dans nos vies où la parole de Dieu se heurte au mur de notre endurcissement. Des fautes dans lesquelles nous retombons souvent. Un regard déplacé sur la gente féminine. Des vidéos sur Internet que nos yeux ne devraient pas consulter. Le besoin de se sentir apprécié au milieu des hommes. La soif de reconnaissance. Oui, assurément, il y a des domaines où la loi de Dieu est sans vie, comme pour ce peuple. Nous ne sommes pas meilleurs que ce peuple. Si bien que notre conjoint ou notre proche pourrait se demander à juste titre, combien de temps encore? Combien de temps encore vais-je supporter son côté violent, son indifférence, ses paroles blessantes, sa négligence? Dans ce texte, Dieu pointe du doigt notre injustice. Dans ce passage, Dieu appuie là où ça fait mal. Pourquoi ? Pour nous inviter à le rechercher, lui, car c'est lui qui nous sauve de notre injustice. Dieu est celui qui nous délivre de l'injustice que nous subissons, mais aussi de celle que nous commettons. Dieu nous délivre de notre propre injustice. Notre Dieu est celui qui nous aide à vivre avec cette injustice subie, sans que nous ne péchions à notre tour. Comment sortir de la spirale de l'injustice ? En commençant par rechercher Dieu. C'est ce qu'Habakkuk a fait dans ce texte. Et nous venons de voir comment la Bible nous exhorte, nous propose des moyens pour gérer l'injustice. Toujours est-il qu'à ce stade, Habakkuk n'a toujours pas de réponse de Dieu sur sa question. Dieu va-t-il se décider à intervenir ? Que va-t-il répondre à la supplication d'Habakkuk ? Que va-t-il faire concrètement face à l'injustice de son peuple ? C'est ce que nous allons voir maintenant, car Dieu va répondre à Habakkuk. Je lis au verset 5. « Jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Je vais faire surgir les Babyloniens, ce peuple impitoyable et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et redoutable. Il est la source de son droit et de sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Ses cavaliers se déploient, ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fend sur sa proie. Tout ce peuple vient se livrer au pillage. Le visage tendu vers l'avant, il rassemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes sont l'objet de ses railleries. Il rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors il change d'avis et poursuit sa marche, et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. » La suite. « N'es-tu pas depuis toujours, éternel mon Dieu, mon saint ? Nous ne mourrons pas. Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Mon rocher, tu l'as appelé pour infliger tes punitions. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder à la misère. Pourquoi regarderais-tu les traîtres ? Pourquoi garderais-tu le silence quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui ? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme les reptiles qui n'ont pas de maître ? Le Babylonien les fait tous monter avec l'hameçon. Il les attire dans son filet. Il les rassemble dans sa nasse. Alors, il est dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il offre un sacrifice à son filet. Il fait brûler de l'encens en l'honneur de sa nasse, car grâce à eux, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Va-t-il toujours vider son filet et égorger sans pitié les nations ? Dieu a répondu. Dieu a décrété le jugement imminent de son peuple. Il va punir les injustes. Et il va le faire en utilisant un peuple encore plus impie, plus mauvais, Babylone. D'autres versions traduisent par les Chaldéens, mais c'est le même peuple. Au moment de la rédaction de ce texte, Babylone a battu le grand empire de la région qui est la Syrie. La cruauté de ce peuple semble le précéder dans toute la sous-région. Ses victoires sanglantes font sa notoriété. Regardez, c'est ce que Habakkuk nous dit au verset 17. « Va-t-il toujours vider son filet et égorger sans pitié les nations ? Babylone est pire que Juda. Habacuc a enfin sa réponse, mais cette dernière n'est pas celle qui l'attendait. Il trouve que la solution de Dieu est disproportionnée et il décide quelque part de défendre le peuple. Et pour cela, il s'assimile au peuple. Observez le verset 12, il dit « nous ne mourrons pas ». Habacuc est partisan de l'équité. « Ok Seigneur, punis le peuple, mais de grâce, fais-le de façon juste et équitable. » C'est ce qu'il suggère au verset 13. Observez, « Pourquoi garderais-tu le silence quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui ?» Pour Habacuc, une hiérarchie dans les fautes commises implique une hiérarchie identique dans les sanctions. Une hiérarchie dans les fautes commises implique une hiérarchie identique dans les sanctions. D'autant plus qu'Israël a quand même une place privilégiée aux yeux de Dieu devant Babylone. En effet, c'est à travers Israël que Dieu jugeait les peuples. Les 10 plaies d'Égypte, souvenons-nous. Souvenons-nous de la chute de Jéricho. Souvenons-nous de David face à Goliath qui met en déroute tous les Philistins. C'est ce qu'il dit au verset 12. « Tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Mon rocher, tu l'as appelé pour infliger tes punitions. » Mais alors, Dieu aurait-il changé? Est-il devenu plus sévère d'un coup? Est-il injuste? La réponse est non. La clé de ce passage se trouve dans les paroles mêmes d'Habacuc. Regardons le verset 13. « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder la misère. » D'autres versions traduisent par « Tes yeux sont trop purs pour supporter la vue du mal, et tu ne peux pas accepter de voir des méfaits se commettre. » Dieu est le même et il n'a pas changé. Jésus aura la même réaction quelques siècles plus tard face à l'endurcissement de ce même peuple. Luc 13, versets 2 à 3. Jésus leur dit, « Pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes ?» Non. Je vous le dis, mais si vous ne changez pas, vous périssez tous, vous aussi. Vous périrez tous, vous aussi. Dieu a en horreur le péché de tout le monde. Et son jugement est certain. Voilà la vérité de ce texte. Dieu déteste le péché et il n'hésite pas à sanctionner le pécheur. Il n'a pas changé. Et croyez-moi, nul ne pourra échapper au jugement de Dieu. Chère Église, ce texte nous appelle à avoir une réflexion sérieuse sur nous-mêmes. Une réflexion sérieuse. Quelle image avons-nous du péché? Notre regard sur notre péché est-il fidèle à l'image du péché que le Dieu de la Bible nous renvoie dans ce texte? Traitons-nous le péché avec la même attitude que Dieu? Si tel n'est pas le cas, permettez-moi de dire que nous sommes en danger. De plus, si nous nous définissons comme disciples, eh bien, sachez qu'en agissant ainsi, nous courons à notre perte. John Owen, un puritain, affirme dans son livre « La mortification du péché » « Vous allez vous appliquer à mettre à mort le péché dans votre vie, ou alors c'est le péché qui sera en train de vous tuer. » Vous allez vous appliquer à mettre à mort le péché dans votre vie, ou alors c'est le péché qui sera en train de vous tuer, de vous détruire. Dieu a en horreur le péché de tout le monde et son jugement est juste. Dans ce passage, Dieu n'intervient pas pour juger Babylone. Ici, Dieu condamne d'abord Israël. Depuis Adam, nous sommes tous condamnés à mourir un jour à cause du péché. Et Dieu n'avait pas tort lorsqu'il a envoyé le déluge au temps de Noé. De même, Dieu est juste lorsqu'il suscite Babylone pour juger Israël. Et personne ne pourra dire le contraire, et personne ne pourra échapper à son jugement. Il n'y a rien d'injuste dans ce texte. Au contraire, Dieu avait déjà anticipé la question d'Habacuc. On va le voir, regardons le verset 17. « Va-t-il toujours vider son filet et égorger sans pitié les nations ?» Dans ce verset, Habacuc fait remarquer à Dieu que Babylone sévit avec cruauté depuis un moment et que les choses ne devraient pas perdurer ainsi. Mais Dieu avait anticipé cette question. En effet, Dieu avait fourni la réponse à cette question. Si on peut revenir au verset 11, qui est juste avant. Au verset 11, il dit « Alors, il change d'avis et poursuit sa marche, et il se rend coupable. » Et il se rend coupable. Avant même de s'attaquer à Israël, pour Dieu, Babylone est déjà coupable. Et il devra payer un jour. Dieu a en horreur l'injustice, on le voit dans ce texte. Il a en horreur le mal commis, et que tôt ou tard, il jugera également Babylone. Dieu est notre souverain juge. À travers l'histoire d'Habacuc, Dieu nous appelle à lui faire confiance. Ayant confiance à ce Dieu qui est souverain sur l'injustice. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est notre souverain juge. Vous voulez connaître quelle est la vraie injustice ? Parce qu'il y en a une. La véritable injustice ne se trouve pas ici dans ce texte, elle est ailleurs. Lequel d'entre nous laisserait-il une personne être jugée par ses détracteurs ? Laisserions-nous les agresseurs juger leurs victimes ? Et pourtant, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort ? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple ? Nous étions tous comme des brebis égarés. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait commis aucune violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Ésaïe 53. Jésus a été jugé par des pécheurs. Et c'est injuste. C'est profondément injuste. C'est là la vraie injustice dans ce texte. Dieu a laissé Jésus se faire condamner par ses détraqueurs. Il a été crucifié par des menteurs, par des orgueilleux, par tout un peuple qui a injustement condamné l'innocent en lui préférant la libération d'un criminel. C'est Jésus qui a subi le véritable préjudice. C'est lui qui a enduré la plus grande des injustices. Et au sein même de cette injustice, il a recherché Dieu. Dans le jardin de Gethsémané, conscient qu'on allait l'arrêter, il s'est éloigné pour prier. Il s'est éloigné pour rechercher Dieu. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Jésus recherchait Dieu au milieu de l'injustice. Alors même que la nation d'Israël pensait en finir, Dieu accomplissait une œuvre salutaire pour toute l'humanité. Notre Dieu a délibérément laissé Jésus se faire condamner par des pécheurs et mourir à la croix pour notre justice. On l'a vu, les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Et Dieu ne peut pas oublier d'un coup sa justice, sa sainteté. Il est juste, il est saint de toute éternité. Et contrairement à lui, nous, nous sommes des pécheurs. Nous, nous méritions la mort. Et Jésus a pris cette mort injustement. Et c'est pour cette raison que Christ, nous dit le texte aux Hébreux, s'est offert une seule fois pour porter le péché de beaucoup d'hommes. Puis il paraîtra une seconde fois sans rapport avec le péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité. Jésus a triomphé de l'injustice. Il est ressuscité pour nous donner gratuitement, par la foi en lui, la justice de Dieu. Ainsi, aucune Babylone ne pourra plus nous juger. Face à l'injustice, rappelons-nous de l'œuvre de la croix. Rappelons-nous en plus que Jésus reviendra. Il reviendra pour nous délivrer de ce monde. Nous ne sommes pas faits pour cette terre. Face à l'injustice, regardons à Jésus. Regardons en son retour. On l'a chanté, je sais qu'un jour la fin sonnera. Mais que notre cœur ne cessera de chanter nos louanges, ses louanges à lui pendant des milliers d'années. Regardons à son retour. Je vais conclure. En conclusion, qu'est-ce que nous avons vu ce matin ? Nous avons vu comment Habacuc agit face à l'injustice. Et nous avons vu trois choses. Dans ce texte, Dieu nous montre comment vivre, comment triompher de l'injustice. Et à l'image d'Habacuc qui est accablé par le péché de son peuple, recherchant le Dieu qui nous délivre de l'injustice, subie, mais aussi de celle que nous commettons. Et pour cela, développons le réflexe de tourner nos regards de suite vers Dieu, au milieu même de l'injustice, par la prière, comme on le voit dans ce texte, et Jésus également l'a fait. Apprenons à dire non à ces questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Posons-les plutôt à Dieu. Et ce qui est frappant dans ce texte, c'est que Habacuc a compassion des personnes qui souffrent. Nous sommes dans l'Église, autour de nous, il y a potentiellement, même certainement, des personnes qui souffrent. Et Habacuc prie pour ces personnes-là. Un appel à la compassion. Alors que nous recherchons Dieu, souvenons-nous que Dieu a en horreur l'injustice, le mal commis, et que tôt ou tard, il jugera. C'est un appel à faire confiance au Dieu souverain, au Dieu qui est juste en tout temps. Faisons confiance, ayons confiance en Dieu. Il est au contrôle. Et nous ne pouvons tout comprendre, mais lui, il est au contrôle. Et enfin, nous avons regardé à Jésus. Regardons à Jésus. Regardons à Jésus. Regardons à la croix. Car Jésus lui-même a recherché Dieu face à l'injustice. De plus, il est celui qui a triomphé, qui a subi et triomphé de la plus grande de ses injustices par sa mort et par sa résurrection. Ainsi, l'injustice ne devrait pas nous éloigner de Dieu. Si vous posez des questions sur l'injustice, au contraire, elle devrait nous rapprocher de lui. Car Jésus a subi et a triomphé d'elle à la croix et il a des réponses à nous apporter. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous avons besoin de toi pour vivre face à l'injustice que nous subissons, mais aussi de celle que nous commettons. Tu vois, Seigneur, comment nous sommes si facilement, nous laissons aller ou nous tombons, Seigneur. Nous te prions ce matin, viens nous sauver de nous-mêmes, viens nous aider à t'honorer. Et ce matin, nous te renouvelons notre pleine confiance, car tu es celui qui nous délivre. Aide-nous, Seigneur, à retenir et à mettre en pratique ta parole. Pour ta gloire. Amen.